Je vais essayer de ne pas trop retarder le dîner et d'être rapide, mais intéressant. Je suis Victoria Sertis et notre équipe est là à l'arrière. Alors, je suis une assistante de recherche de l'Université Concordia et nous faisons également de la recherche appliquée. Et en écoutant toutes ces merveilleuses présentations, il m'est venu à l'esprit que ce que l'on de quoi on parlait quand on parlait d'accès, accès pour qui, et comment, de quoi on parle et comment est-ce que l'on répond à ces questions dans notre projet. On parle à l'accès pour la minorité anglophone et on crée des outils de formation pour les infirmiers et infirmières pour réduire cet écart. Et c'est l'objectif de ce projet. Comme a été mentionné plus auparavant, la communication dans les soins de santé, c'est très important. Il est particulièrement important que les infirmiers et infirmières puissent se communiquer pour donner un bon niveau de soins. Et pour faire cela, le plus important serait de pouvoir le faire dans la langue maternelle du patient, de la patiente. Ici, on parle de la minorité anglophone qui puisse recevoir des soins de santé de la part d'infirmiers et d'infirmières en anglais. Alors, quels sont les outils qui existent? Alors, on a pensé pourquoi ne pas créer un outil. Alors, on crée un environnement de formation vidéo en ligne. C'est en fait un logiciel interactif pour pouvoir pratiquer des tâches linguistiques que les infirmiers et infirmières font tous les jours, mais de pratiquer à les faire en anglais. Alors, je vais maintenant vous raconter l'histoire du processus de la création pour ce matériel, commençant par la phase initiale, ce que l'on fait maintenant, et ensuite, je vous parlerai un peu de quelles seront nos prochaines étapes. Alors, la première phase, on a dû créer tout cet environnement de formation. Comment le faire? Alors, la première chose que l'on devait faire était de choisir une tâche. Quel type de situation on voulait utiliser pour la formation? Et celle que l'on a choisie, c'est l'entrevue de l'histoire médicale, de l'historique médical. Et pour créer ceci, on a dû créer un script, un texte, un dialogue, et on l'a fait en trouvant des questionnaires sur les sites web des hôpitaux, etc. Alors, on avait un questionnaire de 72 questions. On a pris ce questionnaire et on a pris un patient, une patiente, et on l'a filmé répondant à toutes ces questions. Et ensuite, on a pris toutes ces vidéos et on a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On les a donc intégrées à un système de logiciel. Et comme vous voyez, c'est une photo des composants du système. Alors, dans notre petit paquet de logiciels, on a les vidéos, on a un système de gestion des dialogues, on a également un logiciel de reconnaissance de la voix et une analyse de la prononciation. Alors, voici ce que ça donne. Ici, vous avez l'interface à gauche et dans la petite ligne, dans le petit carré blanc en bas, je vais prendre un pointeur ici. Alors, dans la petite boîte ici, on a la question que l'infirmier ou l'infirmière poserait. Le logiciel de reconnaissance de la voix le reconnaît, si elle a bien dit, ensuite donner une vidéo du patient ou de la patiente répondant à la question. Donc, c'est une simulation d'interaction infirmier-infirmière, patient-patiente. Et en plus, ça donne de l'information ici sur le pointage de la prononciation de l'infirmier ou l'infirmière. Si pour une raison quelconque, elle ne le prononce pas assez bien et la reconnaissance de la voix ne... on voit un petit clip du patient ou de la patiente qui dit « Ah, écoutez, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? » On a testé ceci avec 5 étudiants en infirmière. Ah, c'est vraiment authentique. On sent que le patient parle vraiment avec nous. Alors, on a trouvé que c'était un outil très intéressant à développer. Alors, ça, c'était dans la première phase. Évidemment, en tant que chercheur, on veut toujours aller plus loin et innover et améliorer. Alors, les endroits que l'on pensait peut-être devoir améliorer, c'était vraiment la structure. La première structure est linéaire. Donc, on te donne une question, il y a une réponse, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de flexibilité. La deuxième chose était que les questions étaient basées sur un matériel écrit de questionnaires que l'on avait trouvé en ligne. Alors, on voulait le rendre un peu plus authentique. Dans la phase 2, qui a commencé en 2010, on a commencé à intégrer de la flexibilité dans le modèle. La façon que l'on a fait ça, c'est qu'on a regardé les tâches et on a vu un endroit où il y avait un ordre fixe et où il pouvait avoir une flexibilité dans l'ordre des thèmes. Alors, évidemment, l'ouverture doit aller au début et la conclusion doit aller à la fin d'une conversation, mais au milieu, si on a des questions sur l'histoire l'historique familiale, c'est pas grave si on pose une question sur le cancer en premier, sur l'épilepsie en premier, ou les questions cardiaques en premier, ce n'est pas important. Alors, dans cette phase, on donne des options à l'infirmier ou à l'infirmière. Donc, dans l'interface, au lieu d'avoir une question, elle a trois questions desquelles elle peut choisir pour voir dans quel ordre elle pose ses questions. La deuxième phase, c'était d'ajouter plus de tâches. Donc, l'historique médical, c'est très bien. Alors, peut-être que l'on peut inclure d'autres choses. Alors, l'évaluation de la douleur, l'entrevue de l'évaluation de la douleur que les infirmiers et infirmières font dans les hôpitaux. On l'a fait pour deux jours. Premièrement, parce que une analyse faite par Michel Laurier et d'autres montrait qu'en fait, l'évaluation de la douleur est une chose difficile à faire dans une deuxième langue parce que ce n'est pas facile d'en parler. Et la deuxième raison était parce qu'on avait accès encore plus de d'enregistrements qui avaient été faits dans un centre de réhabilitation. On avait 10 enregistrements de d'infirmières anglophones et de patients et patientes anglophones en interaction en anglais sur ce dialogue d'évaluation de la douleur. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est prendre les transcriptions et les enregistrements pour les mettre dans une base de données, voir quel est leur langage utile, comment est-ce qu'ils parlent réellement, quel type de choses est-ce qu'ils disent. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils parlaient de choses comme l'intensité de la douleur. Ils font une description de la douleur. Est-ce que c'est une douleur lourde, pointue? Et il y a toutes sortes de stratégies pour être sûr que les réponses des patients patientes sont très claires. Ils utilisent également des marqueurs, de dire que oui, je vois, je comprends. Et tout ça était très important parce que ce sont des stratégies de conversation qui doivent être incluses dans le modèle. Alors, une fois que l'on a analysé tout cela, on a créé 3 dialogues et on a filmé des nouveaux patients. Et j'aimerais remercier Marcia. Dans cette phase, on a pu les filmer dans le centre de simulation à McGill pour qu'on puisse avoir un environnement très réaliste. On a utilisé des acteurs et actrices parce qu'ils peuvent simuler la sensation de douleur de façon à ce que ce soit plus réaliste. Nous sommes maintenant à l'étape où on est en train d'intégrer tout cela dans le système. Alors maintenant, on est en train de créer nos nouveaux modules. Alors, pourquoi est-ce que l'on a choisi 3? On comprend que ce ne sont pas toutes les infirmières et infirmiers qui ont le même niveau d'anglais. Alors, le premier niveau est plus facile, le langage est plus simple et est également plus facile dans le sens que le patient ou la patiente n'est pas en trop de douleur, là, elle coopère assez bien, elle répond les questions que tu poses, tout va bien. Au niveau 3, le langage est un peu plus complexe en termes de syntaxe et d'expression idiomatique, mais également le patient est vraiment souffre énormément et ne coopère pas très bien. Quand tu lui poses une question, il ne te donne pas nécessairement la réponse que tu veux entendre, ce qui est une réalité dans les hôpitaux. Alors ça, c'est un des éléments de ce dialogue. Le deuxième est une partie de branches, ce qui veut dire que les dialogues ne sont pas exhaustifs. L'infirmière ne peut pas poser toutes les questions qui apparaissent à l'écran. Des fois, on lui donne 2 options, elle en pose une et elle ne voit jamais cette autre option. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que cela signifie que quand tu arrives à la fin de l'entrevue, il y a des questions que je n'ai pas posées, je veux les poser maintenant. Alors, ça motive à une répétition, ça motive l'infirmier ou l'infirmière à retourner et à pratiquer. Parce que s'il faut que tu fasses la même chose exactement 10 fois, c'est pas très intéressant. Alors, ceci le rend un peu plus intéressant. On le fait maintenant, on est en train d'intégrer tous ces modules, ces 3 nouveaux modules. Et la phase des prochains 6 mois sera de tester ces nouveaux modules. Et ce qui est très bien, c'est que l'on a le patient virtuel original avec nous et il sera juste à côté de notre affiche. Alors, vous pouvez venir pratiquer comment vous faites des entrevues. Alors, merci beaucoup pour le financement de l'Université McGill et à Mélissa d'avoir organisé ceci. C'était beaucoup de travail, mais c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.
Thank you very much, Victoria. André had to leave for a short while, so I'm going to.
André a dû partir pour un petit moment, alors je vais le remplacer. On a maintenant un peu de temps pour une période de questions et on a une dernière présentation, Jim Carter, et ensuite on passera au dîner. Alors j'invite toutes les questions pour nos conférenciers de ce matin ou des questions générales. On a environ 5 minutes pour une petite période de questions. Malheureusement, la question est inaudible. Ils doivent aller au micro pour que l'on puisse traduire ce qui est dit. Ça peut être utilisé à n'importe quel moment durant la formation. Ça pourrait être utilisé pour des infirmiers et infirmières en service, mais en ce moment, le logiciel de reconnaissance de la voix est en licence, alors il ne peut pas être distribué ouvertement. Alors, il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là. Il faudrait acheter le permis pour l'utilisation dans les hôpitaux. Mais c'est plutôt un outil de pratique. Alors, plutôt avec d'autres formations linguistiques, je sais qu'il y a un autre groupe qui parlera de modules spécifiquement pour cela. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Henrietta, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? L'idée était de développer un outil qui puisse être mis sur un ordinateur portable, de façon à ce qu'un infirmier ou une infirmière pourrait l'utiliser à son poste de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question pour Dan et Antonia. Est-ce que la communication e-santé a besoin de d'autres habiletés de communication comparées au face-à-face? Est-ce que cela a été étudié comme de donner des mauvaises nouvelles, d'essayer d'avoir un consentement informé? Ou est-ce qu'il... où il pourrait avoir des sentiments plus forts? La personne avec laquelle nous avons travaillé a partagé l'expérience d'avoir eu un patient qui a eu un diagnostic de cancer, et parce qu'ils étaient si éloignés à cause de financement, ils ont dû faire la consultation au Newfoundland à Terre-Neuve plutôt qu'ici au Québec. Et en décrivant cela, la situation est qu'une partie de ce rôle en tant qu'infirmier infirmière était d'être là en tant que soutien. Alors, le message en tant que tel vient du spécialiste et non pas de l'infirmier ou l'infirmière, mais l'infirmier ou l'infirmière doit recevoir l'information. Ils ont normalement un peu d'information en avance et donc peuvent offrir un certain appui aux patients pour... je vais passer le micro à Antonia parce que je crois qu'il y aurait certaines situations dans lesquelles on doit vraiment être conscient de cela, mais je ne crois pas que l'on ait étudié la question en tant que telle. Je voulais mettre l'emphase sur le fait que je n'ai pas vu d'études encore qui explorent réellement la communication, comme vous avez dit, de donner des mauvaises nouvelles à travers un système de vidéoconférence. Je n'ai vu aucune étude faite là-dessus, ce serait un point très intéressant. Alors, je crois que c'est peut-être un projet futur possible de votre part. Les besoins de formation peut-être seraient différents, savoir si l'infirmier ou l'infirmière a une certaine connaissance de la télécommunication ou des vidéoconférences. Simplement pour clarifier, vous parlez de l'expérience utilisant la technologie ou... Il y a eu un mélange. Certaines personnes avaient eu une formation sur le terrain ou des techniciens de TELUS qui étaient un des... fournisseurs de services qui ont donné une formation. Mais plusieurs n'avaient eu aucune expérience préalable. La plupart l'ont fait parce qu'ils étaient intéressés à le faire ou à faire quelque chose de différent. Alors, avaient un intérêt envers la chose. Mais ce que l'on a vu surtout, c'est de la formation au travail en Ontario. Après les entrevues, nous sommes allés en Ontario, Toronto pour faire des visites également pour participer à des sessions de formation de télémédecine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible encore ici. Alors, la plupart de ces personnes l'ont fait au travail, l'ont fait par intérêt. La plupart des personnes, en fait, ont identifié que s'ils avaient besoin de savoir quelque chose, en fait, l'infrastructure n'était pas disponible encore pour avoir accès aux ressources dont ils auraient besoin. On a encore le temps d'une question bien courte avant de passer au prochain conférencier. Alors, merci beaucoup. Alors, je me demandais en termes de la gestion du risque et tout cela avec la formation en langue et une infirmière qui communique avec une personne qui souffre de douleurs chroniques, etc. Comment est-ce que les formations ressortent pour appuyer, je pense, disons, cette formation de langue virtuelle, cette infirmière qui ne maîtrise pas complètement la langue, mais qui donne un service médical avec un potentiel d'erreur, n'est-ce pas? Comment est-ce que les ordres professionnels appuient ces efforts de formation et est-ce qu'il y a des enjeux derrière tout cela? C'est une question en fait très intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait une réponse? Peut-être Marcia? Je ne suis pas une experte là-dessus, mais tous les infirmiers et infirmières doivent faire un examen de langue s'ils n'ont pas été éduqués au Québec. Alors, cet examen est assez rigoureux. Les normes sont assez élevées. Alors, je ne peux pas dire parce que moi, je l'ai fait il y a vraiment plusieurs années. Il est très différent maintenant. Alors, je ne sais pas si ça répondrait à des questions ou des questions peut-être un peu plus délicates. Mais je suis assez certaine que c'est intégré à ces examens. Merci.